Lettre 188 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Livry, vendredi 16 juillet 1677. J'arrivais hier au soir ici, ma très chère. Il y fait parfaitement beau. J'y suis seule et dans une paix, un silence, un loisir dont je suis ravie. Ne voulez-vous pas bien que je me divertisse à causer un peu avec vous? Songez que je n'ai nul commerce qu'avec vous. Quand j'ai écrit en Provence, j'ai tout écrit. Je ne crois pas en effet que vous eussiez la cruauté de nommer un commerce une lettre en 8 jours à Madame de Lavardin. Les lettres d'affaires ne sont ni fréquentes ni longues. Mais vous, mon enfant, vous êtes en butte à 10 ou 12 personnes qui sont à peu près ces cœurs dont vous êtes uniquement adoré et que je vous ai vu compter sur vos doigts. Ils n'ont tous qu'une lettre à écrire et il en faut 12 pour y faire réponse. Vous voyez ce que c'est par semaine, et si vous n'êtes pas tué, assassiné, chacun en disant « Pour moi, je ne veux point de réponse, seulement 3 lignes pour savoir comment elle se porte. » Voilà le langage, et de moi la première. Enfin, nous vous assommons, mais c'est avec toute l'honnêteté et la politesse de l'homme de la comédie qui donne des coups de bâton avec un visage gracieux, en demandant pardon et disant avec une grande révérence « Monsieur, vous le voulez donc? J'en suis au désespoir. » Cette application est juste et trop aisée à faire. Je n'en dirai pas davantage. Mercredi soir, après vous avoir écrit, je fus prié, avec toutes sortes d'amitié, d'aller souper chez Gourville, avec mesdames de Chambert, de Frontenac, de Coulanges, monsieur le duc, messieurs de la Rochefoucauld, Barillon, Briolle, Coulanges, Sévigné. Le maître du logis nous reçut dans un lieu nouvellement rebâti, le jardin de plein pied de l'hôtel de Condé, des jets d'eau, des cabinets, des allées en terrasse, 6 hautbois dans un coin, 6 violons dans un autre, des flûtes douces un peu plus près, un souper enchanté, une basse de viol admirable, une lune qui fut témoin de tout. Si vous ne haïssiez point à vous divertir, vous regretteriez de n'avoir point été avec nous. Il est vrai que le même inconvénient, du jour que vous y étiez, arriva et arrivera toujours, c'est-à-dire qu'on assemble une très bonne compagnie pour se taire, et à condition de ne pas dire un mot. Barillon, Sévigné et moi, nous en rîmes et nous pensâmes à vous. Le lendemain, qui était jeudi, j'allai au palais et je fis si bien, le bon abbé le dit ainsi, que j'obtins une petite injustice, après en avoir souffert beaucoup de grandes, par laquelle je toucherai 200 louis, en attendant 700 autres que je devrais avoir il y a 8 mois, et qu'on dit que j'aurai cet hiver. Après cette misérable petite expédition, je vins le soir ici me reposer, et me voilà résolu d'y demeurer jusqu'au 8 du mois prochain, qu'il faudra m'aller préparer pour aller en Bourgogne et à Vichy. J'irai peut-être dîner quelquefois à Paris. Madame de Lafayette se porte mieux. J'irai à Pomponne demain. Le grand d'Acqueville y est dès hier, je le ramènerai ici. Le frater va chez la belle et la réjouit fort. Elle est gaie naturellement, les mères lui font aussi une très bonne mine. Corbinel y me viendra voir ici. Il a fort approuvé et admiré ce que vous mandez de cette métaphysique et de l'esprit que vous avez eu de la comprendre. Il est vrai qu'il se jette dans de grands embarras, aussi bien que sur la prédestination et sur la liberté. Corbinel y tranche plus hardiment que personne, mais les plus sages se tirent d'affaire par une altitude ou par imposer silence, comme notre cardinal. Il a le plus beau galimatias que j'ai encore vu au 26e article du dernier tome des Essais de morale et dans le traité de Tenter Dieu. Cela divertit fort. Et quand d'ailleurs on est soumise, que les mœurs n'en sont pas dérangées et que ce n'est que pour confondre les faux raisonnements, il n'y a pas grand mal. Car s'ils voulaient se taire, nous ne dirions rien. Mais de vouloir à toute force établir leur maxime, nous traduire Saint-Augustin de peur que nous ne l'ignorions, mettre au jour tout ce qu'il y a de plus sévère, et puis conclure, comme le père Bonny, de peur de perdre le droit de gronder. Il est vrai que cela impatiente, et pour moi, je sens que je fais comme Corbinelli. Je veux mourir si je n'aime 1000 fois mieux les jésuites, ils sont au moins tout d'une pièce, uniformes dans la doctrine et dans la morale. Nos frères disent bien et concluent mal. Ils ne sont point sincères. Me voilà dans Escobar. Ma fille, vous voyez bien que je me joue et que je me divertis. J'ai laissé Beaulieu avec le copiste de M. de la Garde. Il ne quitte point mon original. Je n'ai eu cette complaisance pour M. de la Garde qu'avec des peines extrêmes. Vous verrez ce que c'est que ce barbouillage. Je souhaite que les derniers traits soient plus heureux. Mais hier, c'était quelque chose d'horrible. Voilà ce qui s'appelle vouloir avoir une copie de ce beau portrait de Madame de Grignan, et je suis barbare quand je le refuse. Oh bien, je ne l'ai pas refusé. Mais je suis bien aise de ne jamais rencontrer une telle profanation du visage de ma fille. Ce peintre est un jeune homme de Tournai à qui M. de la Garde donne 3 louis par mois. Son dessein a été d'abord de lui faire peindre des paravents, et finalement, c'est Mignard qu'il s'agit de copier. Il y a un peu du veau de Poissy à la plupart de ces sortes de pensées-là. Mais chut, car j'aime très fort celui dont je parle. Je voudrais, ma fille, que vous eussiez un précepteur pour votre enfant. C'est dommage de laisser son esprit inculte. Je ne sais s'il n'est pas encore trop jeune pour le laisser manger de tout. Il faut examiner si les enfants sont des charretiers avant que de les traiter comme des charretiers. On court risque autrement de leur faire de pernicieux estomacs, et cela tire à conséquence.